Je suis frère K, frère et sœur présents en humanité. Je vous présente mes salutations. Je viens exprimer un certain nombre d'éléments qui sont complémentaires à tous ceux que j'ai pu vous apporter dans mes précédentes interventions. Mon intervention s'inscrit dans le cadre de ce que vous a donné Omram Michael et concernant l'amour. Ceci s'inscrit dans la suite logique de la plupart de mes interventions concernant des concepts qui, je l'espère, commencent à vous être familiers maintenant, concernant la liberté, l'autonomie, le connu, l'inconnu. Je viens exprimer aussi, et cela complétera ce que j'avais exprimé concernant le feu de la personnalité, le feu de l'ego et le feu de l'esprit. Étant donné que beaucoup de frères et de sœurs commencent à vivre des états de conscience qui semblent sortir, je dirais, de l'ordinaire et de la fragmentation, il est important de vous donner ces éléments, non pas tant comme éléments de réflexion mentale, mais bien plus de réflexion de la conscience elle-même, concernant ce mot essentiel qui est le mot amour. Cet amour peut s'exprimer de différentes façons, et nous le savons tous. Si vous le voulez bien, pour la clarté de ce que je vais vous exposer au travers de mes mots et de ma présence, nous allons essayer de saisir ce qui peut exister comme différence entre l'amour s'exprimant au sein de la personnalité, de l'amour qui s'exerce au sein de l'être-té. Et nous allons d'abord, si vous le voulez bien, essayer de appréhender en quelque sorte l'amour au sens le plus commun et le plus noble, tel qu'il est compris, vécu ou non, aussi bien par une conscience humaine que par la société dans son ensemble et l'humanité même, je dirais, dans son ensemble, quelle que soit la culture, les religions, l'origine ou les conceptions. Le premier principe est de comprendre, et vous le savez tous, que l'amour est une manifestation quasi constante dans les univers, quelle que soit la liberté de ces univers ou l'enfermement de ces univers. Il ne peut exister, comme le reprécisait la source, aucune vie, ni aucune création possible sans l'amour et sans son antithèse. Bien sûr, l'amour est coloré toujours par un ensemble d'éléments qui appartiennent en propre à une personne, qui sont liés, bien sûr, vous le vous en doutez, à son éducation, au vécu de ses premières relations et communications au sein de sa famille, de sa fratrie, de son milieu social, de son milieu affectif. Bien sûr, l'amour va se colorer aussi des différentes expériences vécues par la conscience elle-même dans son enfance, dans sa présence dans l'incarnation, qui sont, je dirais, des circonstances qui vont favoriser ou contraindre en quelque sorte l'expression de l'amour au travers des expériences vécues heureuses ou malheureuses et surtout durant la première partie de l'incarnation. Bien sûr, ensuite l'amour va se teinter de différentes acceptions et acceptations qui sont directement reliées à ce qui est véhiculé par un ensemble de croyances ou de morales issues elles-mêmes des religions, issues elles-mêmes des systèmes philosophiques ou de pensée. Cet amour-là est présent, bien sûr, en tout être humain, même celui qui ne manifesterait que son contraire. Bien sûr, l'amour dont nous commençons à vous parler et qui correspond à la lumière vibrale n'est absolument pas superposable à l'amour existant au sein de la personnalité. Et pourtant, cet amour dont nous essayons de vous parler maintenant, nous le faisons à juste titre durant cette période parce que, grâce aux expériences que nombre d'entre vous commencez à vivre, il va vous devenir de plus en plus aisé de reconnaître l'amour au sein de la personnalité, qui est donc issu du feu de l'ego, de l'amour non pas altruiste, mais de l'amour vibral s'inscrivant au sein de l'unité, qui n'a plus rien à voir avec l'amour s'exprimant en quelque sorte au sein de la dualité. L'ensemble des relations humaines peut se définir par une dose plus ou moins importante qui existe d'amour ou de non-amour. Combien de religions, combien de guerres, combien de mésententes ou d'ententes sont réalisées avec le principe même de l'amour. Il semblerait donc que ce mot soit indissoluble et indissociable en totalité de toutes les sphères d'expression de la vie au sein de ce monde, appelé troisième dimension. Nous savons tous que l'amour, qu'il soit entre deux êtres, entre deux peuples, envers une religion, envers une philosophie, se bâtit, se construit et évolue selon un certain nombre de séquences qui peuvent être différentes pour chaque être, pour chaque système social, mais qui vont en quelque sorte se traduire par une plus ou moins grande identification, une plus ou moins grande adhésion aux principes et aux préceptes de l'amour, s'exprimant aussi bien entre deux êtres, bâtis à travers des liens, appelés liens de la chair ou liens des conventions familiales, sociales, morales ou spirituelles. Cet amour a été aussi appelé conditionnel par opposition à un amour qui serait lui inconditionnel. Il est donc présupposé et préfiguré en quelque sorte que tout amour manifesté au sein de la personnalité ne peut s'exprimer, se manifester qu'à travers un certain nombre de conditions. Ces conditions, elles sont évidentes et tombent sous le sens commun dès l'instant où, par exemple, nous parlons de l'amour d'une mère envers son fils ou d'un parent envers son ascendant ou son descendant. Il existe donc un amour qui est inscrit en quelque sorte dans une espèce de fibre, une espèce de lien maternel, affectif. Il existe aussi, bien sûr, des relations d'amour entre des êtres qui ne se sont pas issus du même sang et qui pourtant, en se découvrant à travers une reconnexion ou une reconnaissance, que cette reconnaissance fasse appel à des choses invisibles ou à des choses plus palpables, en tout cas entre deux êtres, comme entre deux pays ou entre deux individus. Il existe des notions que je qualifierais volontiers d'affinité. En effet, l'amour va se définir selon un certain nombre d'affinités ou de répulsions. Nous savons tous aussi que cet amour-là va passer par un certain nombre d'étapes qui ne sont pas toujours dans le même déroulement et dans le même séquençage, mais qui vont aboutir à des modifications de perception et d'expression du dit amour au fur et à mesure de ce qui est appelé le temps qui passe. Nous savons tous cela pour l'avoir vécu à un moment donné ou à un autre. Il y a des amours qui, quand ils disparaissent par une fin tragique, comme le décès d'un proche, et j'ai vécu cela en étant jeune dans ma dernière incarnation, suffisent à bouleverser totalement les conceptions de l'amour et représentent un choc tellement important qu'ils amènent à se poser la question dans sa propre conscience de ce sens de cet amour qui disparaît et qui, du jour au lendemain, nous échappe parce qu'il devient invisible, non palpable, non manifesté, et ne donne plus accès au sens ni à la communication. Cela, nous le savons tous. Et puis, il existe aussi des amours indépendants de ce qui est connu, palpable et appréciable et qui tombent sous le sens, concernant aussi bien des philosophies que des spiritualités, quelles qu'elles soient. L'être humain est un être d'amour, indéniablement, même au sein de sa personnalité. Et ce n'est que le manque d'amour qui va se traduire par des comportements que l'on pourrait appeler opposés à l'amour, que cela soit la souffrance, la haine et même la guerre, qui ne sont que, en quelque sorte, une incompréhension de l'amour ou de la relation. Ce qui est évidemment bien visible au sein de tout amour, quel qu'il soit manifesté au sein de ce monde, c'est qu'il disparaît un jour ou l'autre, soit par la disparition du sujet qui est aimé, dans une relation affective ou liée à l'hérédité, ou encore dans l'adhésion ou la non-adhésion à des principes, à des philosophies, à des règles morales ou à des spiritualités, ou encore à des religions. Cet amour-là est donc une affinité qui peut se traduire aussi par une forme d'attraction, faisant qu'il y a un besoin, une volonté de vouloir en quelque sorte communiquer et échanger avec l'objet ou le sujet qui tombe sous notre amour ou qui est notre amour. Nous savons tous que ces relations évoluent par des phases plus ou moins cycliques, plus ou moins reproductibles, qui en général se terminent d'une façon comme d'une autre par la disparition de ce dit amour, même si l'amour, dans certaines formes d'expression romantique ou idéalisée, peuvent durer l'ensemble d'une vie. Mais qui peut dire que cet amour va se retrouver dans une autre vie, ou qui peut dire encore que cette relation qui a fluctué dans un temps plus ou moins court, plus ou moins long, va être capable de s'établir au-delà de la disparition de l'être aimé, ou de la non-adhésion à une religion, par exemple, pour un individu donné qui changerait de religion. Pourtant, vous en conviendrez, l'ensemble de l'amour idéalement est toujours conçu comme invulnérable, indestructible et éternel. La personnalité est bâtie, comme vous le savez, comme nous l'avons tous vécu à un moment donné ou à un autre, comme quelque chose qui est éphémère, perfectible, et qui est surtout amené à disparaître, puisque jamais la conscience de la personnalité ne peut s'établir dans une durée qui est au-delà de la naissance et de la mort. Or, le principe même de l'amour, tel qu'il est véhiculé par la conscience même au sein de la personnalité, est toujours construit sur la notion de durabilité, sur la notion d'éternité, chose bien évidemment qu'il ne peut jamais être, puisqu'il sera de toute façon limité par l'expérience de la naissance et l'expérience de la mort. On peut dire en quelque sorte que cet amour-là est un amour idéal, idéalisé, et dont la consonance, qu'on le veuille ou non, est toujours marquée fondamentalement par un élément appelé la peur. En effet, qui pourrait penser aimer son enfant, son parent, sa relation, au moment où il l'aime, comme ayant possiblement une fin, comme pouvant disparaître à un moment donné ou à un autre? Nous sommes tous passés par des épisodes de deuil, de perte, d'abandon, qui nous ramènent à la fragilité de l'amour humain tel qu'il est exprimé et manifesté, que cela soit à travers deux êtres, à travers un enfant ou un ascendant, que cela soit dans un système social quel qu'il soit. L'amour est donc conditionné en permanence par quelque chose qui doit se dérouler dans un temps donné et apporter en quelque sorte une nourriture qui est échangée, partagée, qui permet à deux êtres, à deux situations ou à une religion par rapport à celui qui y adhère, un sentiment de satisfaction, un sentiment parfois de plénitude, mais qui lui aussi va fluctuer dans le temps selon les humeurs, selon la possibilité de se remplir en quelque sorte de cet amour d'une façon ou d'une autre. Cet amour-là est toujours lié, comme je l'avais expliqué, bien sûr, à l'attraction et à la vision. L'amour est une attraction, même dans ce monde, dans tous les mondes. Il ne peut en être autrement. L'amour est bien évidemment conditionné à un certain nombre de signaux qui sont soit imaginés, soit pensés, soit réels, et s'exprimant essentiellement par les sens. Que ces sens soient le sens amoureux, que ce sens soit le sens de la chair, ou encore de l'adhésion à des rites ou à des croyances, quelles qu'elles soient. Cet amour-là peut aussi s'exprimer dans une plénitude. Mais nous remarquons tous que cette plénitude n'est jamais durable et encore moins éternelle, car elle passe toujours par une satisfaction ou une insatisfaction. Le degré de satisfaction de cet amour ou de cette insatisfaction n'est lié qu'à la manifestation inconsciente, le plus souvent, d'un certain nombre de peurs que nous pouvons appeler au-delà de l'attraction les attachements. J'ai longuement insisté dans mes dernières interventions sur la liberté, sur l'autonomie, sur des principes qui sont un peu à l'opposé, en quelque sorte, de ce que l'être humain au sein de la personnalité appelle l'amour. Et pourtant, est-ce qu'il y a une différence fondamentale entre l'amour manifesté par la personnalité et l'amour manifesté au sens vibral ou au sens du cœur? Alors, bien sûr, le langage courant emploie des expressions qui font appel au cœur, comme « avoir du cœur » ou « dire à quelqu'un qui n'a pas de cœur ». Et pourtant, est-ce de ce cœur dont nous parlons quand nous parlons du cœur au sens vibral, au sens du soi, au sens de l'unité? Vous savez très bien que ceux qui font l'expérience de la vibration du cœur ne peuvent plus jamais confondre ni se tromper dans le sens et la qualité de l'amour qui est vécu. Parce que l'amour de la personnalité ne pourra jamais être assimilé à l'amour s'exprimant au sein de l'être-té, du soi, de l'unité, donc réellement du cœur, non pas comme un cœur conçu en tant que principe moral, mais au sein d'un espace vibratoire particulier logé dans la poitrine et se traduisant par une modification perceptible et complète de la conscience. Est-ce que l'amour de la personnalité peut exister ou coexister avec l'amour de l'être-té ? De l'ensemble d'éléments qui vous ont été donnés, il est évident que cela est impossible. Parce que l'amour de la personnalité est lié à l'axe attraction-vision, il est lié au feu de l'ego, au feu de la personnalité, se traduisant par un besoin de friction, par un besoin de contact, par un besoin de vision, d'attraction, de preuve. Alors que l'amour qui est situé une fois la porte étroite franchie, au niveau du cœur, n'a pas besoin de preuve puisqu'il est lui-même sa propre source. Ainsi donc, l'amour au sens humain et personnel se traduit par une espèce d'attraction et de projection à quelque chose qui est extérieur, que ce soit l'amour de Dieu ou l'amour d'un autre être humain ou d'un enfant. Bien évidemment, au sein de l'amour personnel, il existe une très grande difficulté à vivre l'autre, même au sein de l'empathie et du charisme, où il est tout à fait possible de se mettre à la place de l'autre, mais sans pour autant devenir l'autre. Et bien évidemment, il ne viendrait à l'esprit d'aucune personnalité de pouvoir remplacer ou devenir celui que l'on aime, puisque cet amour n'est né que dans la vision et l'attraction de ce qui est vu, bien sûr, à l'extérieur de soi, même si cet objet, ce sujet, est né à l'intérieur de soi, je pense en particulier à la relation mère-enfant. Bien sûr, tout cela est connu, tout cela est parfaitement reconnu et parfaitement vivable par tout être humain, quel que soit son chemin, quelle que soit son expérience, où il y a la possibilité de vivre une plus grande quantité et qualité d'amour en fonction de ses croyances, de ses blessures, de ses espérances, de ses expériences. Il existe donc un contexte, par définition personnel, à l'expression et la manifestation de l'amour pour un être humain en fonction de ses propres blessures, de ses propres affects, bref, tout ce qui fait l'ensemble de la personnalité. Pour beaucoup d'entre vous, nous avons commencé à vous parler de lumière vibrale, nous vous avons parlé d'étoiles et de portes, de nouveaux corps, de nouvelles structures, qui vous conduisent à expérimenter l'amour sur un autre mode, où il ne peut plus exister le moindre attachement, la moindre, en quelque sorte, personnalisation, que cette personnalisation soit l'objet d'une idéation intérieure, comme d'une projection extérieure à travers un être aimé, que cela soit un enfant, un parent, une relation ou une religion. Ainsi, passer du feu de la personnalité ou de l'amour personnel au feu de l'esprit se traduit par un certain nombre de bouleversements et de retournements qui viennent en quelque sorte se substituer à un amour par défaut d'attraction, à un amour qui s'établit dans l'attraction et surtout dans la résonance, procurant pour les êtres qui le vivent la capacité à communier au-delà des sens, au-delà de la chair, au-delà des conventions, au-delà des religions, bref, indépendamment de toute histoire personnelle. L'amour vécu au niveau du cœur devient donc, comme nous vous l'avons dit, une vibration et surtout et avant tout, un état de conscience profondément différent, qui se manifeste aujourd'hui d'autant plus facilement que se réalise en vous ce qui a été nommé la fusion des éthers, vous permettant en quelque sorte de superposer l'amour de la personnalité, ou exprimé au sein de la personnalité, et l'amour de l'être-été exprimé au sein du cœur. De la rencontre de ce feu de l'ego et des ensembles des caractéristiques de la personnalité avec le feu de l'amour ou le feu de l'esprit ou feu du cœur se traduit une espèce d'alchimie. Cette alchimie se traduit pour la conscience par des modifications de la perception bien réelle, bien concrète de l'ensemble des manifestations affectives et d'amour. Il y a aussi parallèlement à cela l'installation, comme vous le savez pour ceux qui le vivent, d'un certain nombre d'éléments vous faisant dire que vous avez réalisé la joie, l'unité, la vision de ce qui est au-delà de l'apparence par la vision éthérique ou par la vision du cœur, vous amenant à conscientiser littéralement un autre mécanisme de la vie, appliqué et expliqué aussi par l'amour, mais qui ne dépend plus d'autre chose que de soi-même, non pas dans un amour égoïste, contrairement à un amour altruiste, mais bien un amour qui est en quelque sorte irradié depuis la source et manifesté depuis la source, comme le mot que j'ai employé, qui n'a plus besoin de projection, mais qui est en totalité une introjection. La différence essentielle va se traduire au niveau des comportements, parce que l'amour personnel a toujours en sous-entendu la notion de manque, la notion de peur de la perte ou la notion d'abandon, alors que l'amour vécu au sein vibral se satisfait de lui-même, non pas au niveau de la personnalité, mais de la qualité de cet amour qui vient en quelque sorte, comme vous le savez, changer la loi d'action-réaction en un état de grâce appelé action de grâce, où l'abandon à la lumière, le renoncement à la personnalité, va se traduire par une plus grande fluidité dans la vie, par une plus grande acceptation du principe de l'amour, non plus enfermant, non plus limitant. Cet amour vous était donc inconnu, et beaucoup d'entre vous aujourd'hui commencent à vivre cela et à en faire en quelque sorte un connu, et surtout un élément d'apprentissage permettant de distancier et de séparer ce qui est issu de l'amour de la personnalité ou au sein de la personnalité et l'amour au sein de l'être-té ou de l'unité. Alors bien sûr, celui qui ne vit pas l'amour au sein de l'unité ne peut même concevoir ce que c'est que cet amour tant qu'il n'est pas vécu, parce que l'amour de la personnalité est la seule chose qui soit accessible au sens, accessible à l'affect, accessible aux émotions, accessible au mental, mais aussi accessible à la chair ou encore à la structure causale quand il s'agit d'une relation amoureuse mettant en scène, en quelque sorte, des individus qui, de par le passé, ont eu une relation, quelle qu'elle soit. Aujourd'hui, se reproduit une relation avec un sentiment de déjà-vu, de déjà-connu, de reconnaissance et de reconnexion. L'amour vibral n'a rien à voir avec cela. Parce que la différence essentielle, comme je l'ai dit, c'est que cet amour vibral s'inscrit dans le cadre d'une introjection, où il n'y a plus besoin d'une quelconque projection à l'extérieur de soi, d'un amour idéalisé ou romantique. L'amour vibral se suffit en quelque sorte à lui-même. Il n'est pas pour autant égoïste, il est l'altruiste le plus total, parce qu'il est le don et l'abandon, contrairement à l'amour conditionnel, exprimé par la personnalité, même quand celle-ci exprime une certaine forme d'altruisme. La différence, comme vous le savez, se trouve dans les comportements et surtout dans la vibration. Nous connaissons tous l'amour au sens de la perte. Quand un être cher vient à disparaître, nous éprouvons angoisse, peur, tristesse, dépression, se traduisant par des perceptions corporelles extrêmement précises. De la même façon, quand nous rencontrons un être qui nous est cher et que nous aimons, de manière plus privilégiée, je dirais, quelle que soit cette relation entre personnes ou par rapport à une religion ou par rapport à un enfant, il y a une espèce de frissonnement superficiel, une énergie qui se met à circuler, et même dans la poitrine, qui n'a strictement rien à voir avec la vibration du cœur et le feu du cœur. Cette vibration, cette chair de poule, ce frissonnement, traduit la reconnexion ou la reconnaissance au sein de la personnalité d'une structure ou d'un individu qui a été aimé auparavant ou reconnu dans cette vie. L'amour vibral n'a que faire d'une quelconque projection extériorisée. L'amour, au sens vibral, est un état de conscience se suffisant à lui-même. Maintenant, celui qui vit cela vit la vibration du feu du cœur et devient par lui-même, dans son état d'être, un rayonnement d'amour qui modifie l'espace-temps, qui modifie l'environnement, qui modifie même la vie de la personnalité. Car c'est dès l'instant où ce feu du cœur, par la fusion des éthers, ou par l'installation du feu du cœur, par la couronne radiante, se réalise en vous, que vous commencez à avoir des perceptions de plus en plus claires, de plus en plus lucides, au-delà des sens, au-delà de toute intuition et de toute vision, directement par la vision éthérique, directement par la vision du cœur, dans la réalité de ce qu'est l'amour, indépendante de toute projection, indépendant de toute personnalisation, et surtout indépendant de toute condition. Il existe un principe de vase communicant, ce sont les mots qui vous ont été donnés, entre l'amour personnel et l'amour du cœur. Même si, bien évidemment, la personnalité va appeler amour ce qui, pour elle, représente en quelque sorte l'amour. Mais la représentation de l'amour au sens de l'idéalisation, au sens même de la relation et de la communication, fût-elle la plus harmonieuse entre deux êtres, entre un parent et un enfant, par exemple, ne peut être en aucun cas l'amour au sens vibral. Parce que, justement, il existe un lien, et que ce lien soit de la chair, que ce lien soit karmique, que ce lien soit lié tout simplement à la projection extérieure de l'amour. L'amour est un rayonnement au sens vibral. Il n'est en aucun cas une projection. Il confère ce que nous avons appelé la joie, le samadhi, la paix, la sérénité, avec différentes expressions difficilement traduisibles en langage français, comme Satchitananda ou encore Mahasamadhi. Jamais une relation amoureuse entre deux personnes ne pourra vous faire vivre le samadhi. Et jamais l'adhésion à une religion vécue comme extérieure ne pourra vous faire vivre un état d'amour au sens vibral. Seuls certains êtres, ayant été capables, au moment de leur vie, de s'extraire de leur personnalité en totalité, que cela soit par une forme de tension vers la lumière ou de tension vers l'abandon, comme l'avait exprimé Hildegard de Bingen, ou encore cet amour indicible qui animait d'autres étoiles, comme Gemma ou encore Sainte Thérèse, il est extrêmement difficile pour le commun des mortels que nous sommes et que nous avons été, de pouvoir en quelque sorte s'identifier à cette tension. Le plus souvent, l'amour vibral va naître d'une rencontre qui est au-delà d'une rencontre extérieure, mais c'est bien plus une rencontre intérieure qui va s'exprimer soit à l'occasion d'une souffrance, la perte d'un être cher, soit à l'occasion d'une peur, ou encore, comme vous l'avez dit, Sri Aurobindo, à l'occasion du choc de l'humanité, c'est-à-dire de la fusion des éthers se produisant au niveau des corps, non plus seulement dans le ciel, non plus seulement dans la terre, mais sur l'ensemble de la conscience de la terre et des consciences qui y sont supportées et portées. Il existe donc une différence fondamentale. C'est que l'amour au sens vibral se suffit à lui-même. Ce qui ne veut pas dire qu'il convient à ce moment-là de se séparer de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Mais toute relation, toute communication devient transcendée, non pas par une volonté d'idéalisation, non pas par une volonté de bien, mais parce que tout simplement, la relation ne se passe plus dans une relation de deux objets séparés, mais unifiés, ou de deux consciences séparées, mais bien unifiées par le principe de la communion, de la grâce, telle qu'il vous a été donnée par la nouvelle alliance. Vous avez donc la possibilité, aujourd'hui bien plus grande que voilà un certain temps, de réaliser la différence par votre conscience de ce qu'est l'amour vibral et de ce qu'est l'amour personnel. Bien sûr, la conscience qui s'établit au sein de l'amour vibral va magnifier et transcender ses propres relations vécues au sein de l'amour personnel, non pas pour s'affranchir ou se libérer ou rompre quoi que ce soit, mais bien plus pour éclairer la relation bien au-delà de tout lien, bien au-delà de toute condition, c'est-à-dire permettre à ce moment-là de vivre par l'intermédiaire de l'amour vibral, la libération de tout lien, et donc de vous approcher de la liberté, de vous approcher de l'inconnu, et de vivre l'autonomie et la liberté. Est-ce à dire qu'il n'y a pas d'autonomie et de liberté au sein d'une relation personnelle ? Cela est tout à fait exact. Car si l'être humain est honnête avec lui-même, quel que soit le degré de satisfaction d'une relation, quelle qu'elle soit, encore une fois, fût-elle la plus harmonieuse, la plus joyeuse, la plus authentique au sens de la personnalité, elle ne remplacera jamais la communion qui peut être vécue de cœur à cœur, au-delà de tout lien. Ainsi donc, quand le Christ est venu, il vous avait dit qu'il venait vous affranchir de la chair. Il l'a illustré d'ailleurs sur la croix, au travers de ces mots qu'il a adressés à Marie concernant celui qui fut à ce moment-là Saint Jean, en disant à celui-ci et à celle-ci, « Mère, voici ton fils, fils, voici ta mère. » Qu'exprimait-il par là ? Était-ce un transfert de lien ? Absolument pas. C'était un transfert de l'amour personnel au sens de l'amour vibral, par le vécu de l'Esprit-Saint. La descente de l'Esprit-Saint, ou la polarité féminine, si l'on peut dire, de la source, exprimée par différents termes, et telle qu'elle se présente sur Terre depuis maintenant une génération, est l'élément moteur, en quelque sorte, qui a initialisé le passage de l'amour personnel à l'amour vibral. Ce passage-là, aujourd'hui, est entièrement réalisé pour ceux qui le vivent, est en voie de réalisation pour ceux qui ne le vivent pas encore. Car rappelez-vous, la seule façon de pouvoir conscientiser la différence entre l'amour personnel et l'amour vibral est bien évidemment de vivre l'inconnu afin que cela devienne pour vous un champ d'expérience connu. Vous ne pouvez devenir autonome, vous ne pouvez devenir libre tant que le feu du cœur, tant que l'amour vibral n'est pas installé. Il ne peut exister de véritable autonomie, effectivement, tant qu'il existe le moindre lien situé au niveau de la personnalité. Cela, bien sûr, envisage non pas une séparation de qui que ce soit ou de quoi que ce soit, mais bien une révolution intérieure amenant à reconsidérer les relations et à les remplacer par une communion. Cette communion, qu'elle soit entre un parent et un enfant, entre un individu et un autre individu, se passe de mots, elle se passe de sens, elle se passe de comportement, puisque c'est justement quelque chose qui transcende la personnalité, dès l'instant où les êtres qui sont dans cette résonance vivent eux-mêmes leur propre communion intérieure à leur liberté, à leur autonomie, permettant alors un échange qui n'est plus un échange, mais une identification, où l'autre devient en totalité soi, et où l'un devient l'autre, et l'autre devient l'un. Dès l'instant où la vibration du cœur est activée et s'installe dans une forme de permanence, il devient de plus en plus difficile, en quelque sorte, de confondre l'amour personnel et l'amour vibral. Comme vous le savez, l'un est enfermement, l'autre est libération. Bien sûr, les lois mêmes de ce monde, qui a été, comme vous le savez, falsifié à travers l'axe attraction-vision, est venu substituer l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire Al-Od, ou le feu de l'esprit, par un feu de la personnalité. Ce feu de la personnalité s'inscrit dans une notion de limite. Ces limites s'expriment tout naturellement au sein de l'amour personnel. Vous avez votre femme, votre mari, votre enfant, mais le mari de l'un n'est pas le mari de l'autre. Et tout est réciproque. Un enfant qui considère que ses parents sont ses parents n'appellera jamais un autre couple papa et maman. Cela sont en quelque sorte les principes mêmes qui ont fédéré le principe de l'illusion à travers les liens de l'hérédité, de la chair et du sang, les liens affectifs s'exprimant au niveau des mémoires de résonance dites karmiques ou émotionnelles ou mentales. Ainsi, chaque système social, chaque individu s'exprimant et créant des lois au travers de la personnalité ou des comportements moraux ou immoraux va se baser sur cette notion de l'amour et la falsification même de l'amour. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, que l'amour n'existe pas, mais que cet amour-là est conditionnant, enfermant, limitant et vous empêche par là même de vivre l'autonomie et la liberté. Comprenez bien le sens de mes mots. Ce n'est pas en vous libérant de quelque lien que ce soit, en décidant de rompre quoi que ce soit ou avec qui que ce soit, que vous allez trouver l'amour vibral. C'est bien en vibrant et en passant dans l'amour vibral de l'abandon et du renoncement que vous allez permettre à une relation d'évoluer dans le sens d'un amour personnel à un amour plus altruiste, car vécu réellement dans le cœur et dans la vibration et non plus dans les conceptions de la chair, de la morale, de la société dans laquelle vous êtes ou encore de l'adhésion à des principes philosophiques, spirituels ou moraux. L'expérience de la vibration est celle qui est à même de vous faire non pas comprendre, car cela ne servirait strictement à rien. Vous pouvez comprendre l'unité en tant que concept sans pour autant le vivre. Vous pouvez revendiquer l'unité en tant que concept sans pour autant le vivre. Parce que l'unité, comme vous le savez, est au-delà du bien et du mal. Elle est au-delà du principe d'attraction et de vision et se situe dans l'axe rectifié Al-Od, c'est-à-dire Alpha et Oméga, et s'inscrit dans une rectitude qui n'a rien à voir et qui n'est absolument pas tributaire d'une quelconque règle sociale, morale, affective, héréditaire ou karmique. La liberté est à ce prix, et c'est ce à quoi vous êtes confronté intérieurement, le passage de la projection d'un amour personnel à l'introjection d'un amour qui est la vérité, vibrale, et qui est la lumière. Bien sûr, comme vous le savez, tout être humain qui se tourne vers la spiritualité revendique la lumière et revendique l'amour comme un état d'être qu'il va pouvoir manifester à travers la connaissance extériorisée. L'amour n'est pas une connaissance extérieure. L'amour vibral est un état d'être se manifestant par la vibration et par la conscience elle-même qui vient mettre fin à l'illusion de tous les attachements sans aucune exception. Vivre la liberté et vivre l'autonomie, vivre l'amour au sens vibral, nécessite de ne plus être attaché à quoi que ce soit, de ne plus être identifié à quoi que ce soit au sein de ce corps. Cela veut dire être pleinement dans ce corps afin d'en vivre la libération. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il ne peut y avoir aucune confusion entre l'amour manifesté et vibré au sein du cœur et l'amour de la personnalité. Parce qu'au sein du cœur et de la vibration du cœur se manifeste l'amour au sens vibral qui rend libre, qui affranchit et qui montre réellement ce qu'est un amour limité, contrairement à l'amour illimité vécu au sein du cœur. Parce que l'amour illimité, l'amour vibral, ne dépendra jamais d'aucune circonstance de ce monde. Alors bien sûr, ceux qui ne vivent pas cela et qui ne sont pas inscrits dans le cadre de la vibration plus ou moins permanente du cœur vont justifier l'amour de la personnalité par un côté que vous connaissez tous, qui s'appelle le sauveteur, c'est-à-dire celui qui va vouloir agir pour le bien de l'autre. Et il n'y a rien de pire que celui qui veut agir pour le bien de l'autre, car il se place lui-même sous le principe de la dualité. L'unité vibrale et l'amour au niveau du cœur n'a que faire de cette volonté de bien, n'a que faire de cette lutte contre le mal, parce qu'elle se situe de manière définitive et irrémédiable au-delà de cette opposition, au-delà de cet antagonisme, au-delà de tout lien et au-delà de tout attachement. À ce moment-là, une fois que le supramental, comme vous l'expliquera Sri Aurobindo, a suffisamment pénétré les couronnes radiantes, le corps et la conscience, ainsi que les corps subtils, l'être commence à manifester la liberté et l'autonomie en renonçant et en s'abandonnant et en franchissant la porte étroite. À ce moment-là, les quatre piliers, tels qu'ils vous ont été donnés, du cœur, deviennent l'évidence de l'installation au sein du cœur. Il ne peut pas exister d'amour vibral sans humilité. L'humilité consistant à ne plus être rien sur ce monde pour être tout dans l'autre monde, comme l'avait exprimé à sa manière le maître Philippe. Vous ne pouvez être en unité et être en dualité. Vous ne pouvez être transparent et être opaque à l'amour de tous les êtres humains de la création. Vous ne pouvez être dans la pauvreté, dans la voie de l'enfance, tant que vous revendiquez un quelconque intellect, une quelconque contrôle ou maîtrise de votre propre affectif, de votre propre vie ou de la vie de qui que ce soit d'autre. En réalité et en définitive, il existe une totale opposition et un total antagonisme entre l'amour personnel et l'amour vibral. Néanmoins, l'amour vibral doit se confronter par la transmutation du passage de la porte et la résurrection, par le principe de la fusion des éthers vécus au niveau du corps, à l'amour de la personnalité. Et au travers de cette confrontation, qui est plutôt une forme d'alchimie, une forme de mise en lumière, une forme de révélation, va se vivre petit à petit ce que vous appelez, ce que nommons avec vous, la translation dimensionnelle ou l'ascension, qui n'est rien d'autre en définitive, maintenant que vous commencez à le vivre, que l'éthérisation de votre propre corps et de votre propre conscience, ainsi que du corps de la Terre. Ce mécanisme d'éthérisation de la planète, ainsi que votre propre disparition en tant que chenille, se passe en ce moment même. Beaucoup d'entre vous en vivent les prémices, c'est-à-dire une disparition de toute conscience personnelle, pouvant d'ailleurs poser problème. Une disparition de tout amour personnel et de tout lien, vous faisant pénétrer dans l'amour vibral, où tout est liberté, où tout est respect et restitution de la liberté de chacun et de chaque être. Respecter l'autre, c'est le laisser libre. Respecter la société, c'est ne pas interférer dans une société duelle. Cela ne veut pas dire laisser, entre guillemets, pourrir les choses ou encore dégrader une situation. Mais c'est prendre conscience que tant que vous agissez au sein d'un système qui est voué à la dualité, vous ne pouvez installer une quelconque unité. Vivre l'amour vibral ne peut s'accommoder d'aucun amour personnel. Bien évidemment, ce n'est pas quelque chose qu'il convient d'accepter en tant que principe, c'est quelque chose qu'il convient de vivre. Et vous aboutirez nécessairement et obligatoirement à cette même conclusion. Ils ne peuvent coexister. Ils peuvent se confronter, se transmuter, s'alchimiser. Il peut se réaliser un processus de fusion des éthers au niveau de la cellule par la descente du supramental, je laisserai Sri Aurobindo l'exprimer, mais il va vous devenir de plus en plus évident que vous ne pouvez vivre l'un et l'autre. Toutefois, encore une fois, la relation personnelle deviendra transmutée par la relation de l'amour vibral qui n'est plus une relation, ni une projection, mais bien une introjection, correspondant par là même à ce que nous vous disons quand nous sommes à l'intérieur de vous. Quand un archange ou un ancien vous dit qu'ils sont à l'intérieur de vous, ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas une projection, ce n'est pas une chimère, mais bien une réalité vibratoire. C'est-à-dire que quand vous prendrez conscience que votre enfant, que l'ensemble de la société, que l'ensemble de l'humanité, ami comme ennemi, aimant comme non aimant, se trouve à l'intérieur de vous, vous ne pourrez bien évidemment plus entrer dans aucun amour personnel, vous resterez dans l'amour vibral qui vous conférera la joie en totalité. Et cette joie grandira au fur et à mesure de votre acceptation de ce qui a été appelé cet abandon à la lumière et de ce renoncement. Tant que vous voulez exprimer ou manifester l'amour, cela n'est que le reflet de la personnalité. Si l'amour s'échappe de vous, à ce moment-là, ce n'est plus une projection mais bien une introjection. Vous rayonnez, vous diffusez. Mais ce rayonnement et cette diffusion, vous prenez conscience qu'il n'est pas tourné vers autre chose que vous-même, même s'il est l'objet d'une communion entre deux personnes. En fait, aimer l'autre, c'est s'aimer soi-même. Mais s'aimer soi-même n'est pas un amour au sens personnel. C'est un état de vibration qui confère la joie, la liberté, l'autonomie totale. C'est seulement à ce moment-là que vous pourrez décider consciemment de vous établir de manière constante et de plus en plus importante dans cet amour vibral. Ainsi donc, l'amour vibral va vous obliger, en quelque sorte, à vous détacher de tous les concepts erronés, de toutes les transpositions de l'amour en relation avec les blessures ou les contentements que vous pouvez éprouver par rapport à un être humain, un système social, un système moral, spirituel ou religieux. Vous allez comprendre, comme je l'ai dit dans ma dernière vie, qu'il n'existe pas pour la liberté de chemin connu, que pour vivre la liberté, il ne faut être dépendant d'aucune croyance, car que tant qu'il existe la moindre croyance, vous n'êtes pas libre. Parce que la croyance, et même dans un amour idéalisé d'une religion ou d'un sauveur extérieur, ou d'un dieu quelconque, ne reflète que l'incapacité à vivre la plénitude, et que n'est que le reflet d'un vide intérieur concernant l'objet de cette projection d'amour vers l'extérieur. Il n'y a que de très rares cas où cette projection peut se vivre comme une tension vers l'abandon, comme je l'ai dit précédemment. Ainsi, nous sommes tous tributaires de relations que nous pouvons dire conditionnelles. Et elles sont conditionnées, encore une fois, par l'éducation, par les liens de la chair, du sang, par l'expérience, au sein de la personnalité et au sein de l'âme. Mais l'âme ne sera jamais l'esprit. Cela, je l'avais expliqué. Le feu de l'âme, sur ce monde, est exclusivement tourné vers la matière. Le feu de l'âme ne connaît pas l'esprit, tout du moins tant qu'il n'y a pas d'inversion et de retournement du triangle luciférien ou faisant passer du feu de la personnalité au feu du cœur, tant qu'il n'y a pas de passage de la porte étroite pour la troisième fois, permettant de vous établir dans le cœur qui est, je vous le rappelle, liberté, autonomie, qui est inconnu, qui est surtout satisfaction permanente et perpétuelle, ne dépendant d'aucune relation éphémère, surtout ne dépendant d'aucune humeur, d'aucun affect, d'aucun mental, d'aucune conception et surtout d'aucune croyance. L'amour vibral vous rend libre et vous rend fort parce que justement il n'est dépendant de rien d'extérieur et surtout pas d'une projection de la conscience à l'extérieur. L'amour vibral vous rend fort parce que vous considérez, parce que vous le vivez, qu'il n'y a pas de différence, qu'il n'y a besoin d'aucune projection de cet amour vers un extérieur qui n'existe que dans l'illusion de la conscience de ce monde. Réalisant l'amour vibral, vous vous rapprochez, comme cela a été dit par de nombreux anciens et de nombreuses étoiles, de ce que nous appelons la joie, de ce que nous appelons le samadhi, de la paix éternelle. Si vous raisonnez bien, et si vous comprenez bien, au-delà du mental, les relations, quelles qu'elles soient, au sens personnel, sont toujours conditionnelles par leur propre possibilité de disparition. Que cela soit dans une relation de couple, de parents à enfants, dans un système social, dans une société ou dans n'importe quoi. Ce qui n'est pas le cas dès que vous passez au sang et au sens de l'amour vibral par la perception de la vibration et par l'établissement de la conscience dans cet étage particulier de la conscience. Comme vous le savez, les émotions se manifestent sur le plexus solaire. Une perte va se manifester sur la gorge. Le corps va résonner et manifester ce qui est en rapport avec la souffrance vécue sur le plan de l'âme et sur le plan de ce qui est appelé la psychologie. Celui qui réalise l'esprit ne peut être affecté aucunement par un état émotionnel, par un état mental. Alors bien sûr, pour certains, cela va s'établir progressivement. Et pour d'autres, cela va se réaliser d'un seul coup. Parce que chacun est différent dans son processus d'intégration de l'amour vibral, lui permettant de passer de l'un à l'autre et de s'établir en définitive dans la vibration du cœur, c'est-à-dire dans l'unité et dans le soi. L'expérience que vous êtes en train de mener, individuellement et collectivement, vous amène à rencontrer l'amour, non plus comme un feu personnel, mais bien comme le feu de la lumière, venant prendre sa place et vous rendant à votre propre place. Il existe une différence essentielle, même au niveau des perceptions dites spirituelles. Je vous renvoie pour cela à ce qu'a dit Noailles sur le troisième œil, sur la vision du troisième œil et la vision du cœur. On peut aussi parler, là aussi, de différence au niveau des sens. Effectivement, au sens de l'astral, c'est-à-dire de la personnalité, la vision spirituelle du troisième œil vous renvoie à des mondes extrêmement colorés, extrêmement physiques, en quelque sorte, même s'ils se situent sur le plan astral. Alors que dès que vous pénétrez la fusion des éthers de votre propre éther, dès que vous passez par les portes du cœur et que vous vous établissez de manière presque permanente dans la conscience vibrale et dans l'amour vibral, il n'existe qu'une conscience qui n'est plus limitée ni par ce corps, ni par un quelconque corps. Vous êtes à ce moment-là dans la lumière blanche, et ce que vous voyez par vos yeux, comme si vous voyagez en être-té, n'est que de la lumière blanche. Cette lumière blanche n'est pas uniforme, mais pourtant, et cela est difficilement exprimable avec des mots, quand vous pénétrez ces mondes-là, vous savez que vous pénétrez les demeures de l'éternité. Parce qu'il y a de nombreuses demeures, mais toutes ces demeures présentes au sein de la lumière unifiée ne possèdent pas de coloration au sens où vous l'entendez. Le son de l'astral n'est pas le son non plus, ni la musique des sphères. La musique des sphères qui accompagne le samadhi n'a rien à voir avec la musique de l'astral et liée au troisième œil. Tout cela, bien sûr, il ne m'appartient pas de le développer. Il m'appartient par contre de vous dire que il vous est aujourd'hui, et il vous sera de plus en plus facile, et il vous est aujourd'hui facile de distinguer par expérience ce qui est l'amour personnel de ce qui est l'amour vibral. Cette confrontation, cette fusion des éthers que vous avez la chance de vivre avant le moment collectif de l'humanité, vous amène à vous positionner. Et bien évidemment, il ne peut y avoir de doute quant au positionnement. Seul le mental va essayer d'interférer pour vous dire que cela n'est pas vrai. Pour vous dire que si vous vous établissez dans cette lumière vibrale et dans cet amour-là, vous allez perdre tous les amours qui font vos relations, vos affects et vos liens. Non, ils vont simplement se transformer par une plus grande liberté, par une plus grande clarté et par la capacité aussi, parce que vous êtes devenu, de transformer votre environnement sans rien vouloir, sans rien demander, mais simplement par ce que nous avons appelé votre présence. L'amour vibral est transformant par lui-même, même au sein des relations limitées de la personnalité. C'est le principe même de l'action de l'intelligence de la lumière, qui est grâce, et qui n'a que faire de votre intervention au sein de la personnalité. C'est aujourd'hui qu'il faut vous poser la question, qu'est-ce que vous voulez être et qu'est-ce que vous voulez faire ? Est-ce que vous voulez chercher une lumière à l'extérieur ou à travers une connaissance ? Ou est-ce que vous voulez vous établir dans la lumière vibrale qui est unité, simplicité ? La porte postérieure du cœur, appelée Kiristi, vous a donné pour beaucoup les moyens de vous établir de manière beaucoup plus directe dans le cœur, vous incitant en quelque sorte, par l'épée de Michael ou par l'épée de Métatron, comme ils le disent eux-mêmes, de vous établir encore plus dans le cœur et de vous éloigner de tout ce qui est limitant, de tout ce qui est conditionnant, non pas par une quelconque action de la volonté propre qui est vôtre, mais bien plus par l'action directe de la lumière elle-même, vous amenant par rayonnement et par fusion de vos propres éthers à vous replacer en permanence, sans le vouloir, selon le principe de la grâce, de l'abondance, de la sérénité, de la paix et de la sécurité, non pas celle illusoire liée à une condition matérielle ou affective, mais bien plus liée à votre propre état d'être, parce que c'est au sein de cet état d'être qu'il ne peut exister le moindre manque. Voilà les quelques mots que j'avais à vous donner et porter à votre réflexion et à votre conscience, non pas tant pour vous faire interroger ou comprendre, mais plus pour voir ce que vous êtes en train de vivre ou de ne pas vivre. Si nous en avons le temps, et avant que je participe à notre alignement commun de 19h, alors s'il existe des questions par rapport à cela, je veux bien y répondre. En avons-nous le temps ?
Très peu de temps.
Alors nous prendrons une ou deux questions.
Une question ?
Nous n'avons pas de questionnement, nous vous remercions.
Très chers frères et sœurs en humanité incarnée, je rends grâce pour votre présence et votre écoute attentive. Je vous inviterai à relire ces mots au-delà de la vibration même de ma présence, afin de vous situer, non pas intellectuellement, mais bien plus par votre propre vibration. Rappelez-vous que l'amour vibral est évidence, que l'amour vibral est lumière, que l'amour vibral n'est pas l'amour personnel, mais qu'il vient le transcender, le transformer, le libérer et l'autonomiser. Et je vous dis à dans quelques minutes. En l'amour.